Alors, chers frères et sœurs, j'ai vraiment une grande nouvelle à partager. Et cette nouvelle, c'est que le Seigneur est vivant. Et c'est la plus belle nouvelle qui soit dans la vie et dans l'histoire. Il y a 250 ans, en France, il y a eu la Révolution française. La Révolution française a laissé des traces, encore aujourd'hui, bonnes et mauvaises, mais elle a marqué l'histoire de la France. Mais il y a 2000 ans, il y a eu une autre révolution, une révolution qui a touché le monde entier. C'est la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Ça a révolutionné le monde entier parce qu'on n'est plus les mêmes depuis ce jour-là. Ceux qui croient en lui ont la vie éternelle. La mort a été vaincue. Elle qui soumet les hommes, tous les hommes, qu'ils soient riches ou pauvres, qu'ils soient fort ou faible, cette mort a été battue par la vie, la puissance de résurrection en Jésus-Christ. Et c'est ça la meilleure nouvelle qu'on puisse avoir dans la vie. Peu importe où on en est, peu importe nos soucis, peu importe nos espérances ou nos désespoirs, la résurrection est un fait, une vérité extraordinaire. Dans l'évangile de Luc, lorsque les femmes sont arrivées au tombeau, en Luc 24, je vais lire juste deux versets. Saisies de frayeur lorsqu'elles voient les deux anges, elles baissèrent le visage contre terre. Mais les anges leur dirent : Pourquoi cherchez-vous parmi les morts celui qui est en vie ? Il n'est point ici, mais il est ressuscité. Souvenez-vous de quelle manière il vous a parlé lorsqu'il était encore en Galilée, qu'il disait « Il faut que le Fils de l'homme soit livré entre les mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et qu'il ressuscite le troisième jour. » Et nous, parfois, nous sommes comme ces femmes. Nous sommes fixés sur la mort du Seigneur, alors qu'on devrait se fixer sur sa résurrection. Il faudrait que tous les dimanches, nous prêchions la résurrection, pas seulement à Pâques. Qu'est-ce que les apôtres ont prêché dès que le Saint-Esprit est venu sur eux? Ils ont prêché la résurrection de Christ. C'était quelques semaines après la mort et la résurrection de Christ qu'ils ont prêché ce message. Tout de suite! Pourquoi ils ont prêché? Mais imaginez-vous la résurrection. Imaginez que vous soyez mort cette semaine. Vous êtes mort jeudi, par exemple. Et puis vendredi, vous êtes ressuscité. Est-ce que vous ne voudriez pas tous venir à ce pupitre et dire « J'ai un message à vous dire. Cette semaine, il m'est arrivé quelque chose d'extraordinaire. » Mais les apôtres, ils ont vu Jésus mourir sur cette croix. Ils ont vu lorsque le soldat a percé son cœur avec une lance. Ils ont vu le sang et l'eau couler de son sein. Ils ont vu quand on l'a amené au tombeau. Ceux qui l'ont amené dans le linceul ont vu qu'il était froid, cadavérique. Ils ont mis quelques aromates pour que le corps ne sente pas trop mauvais pendant le sabbat. Et puis quand le dimanche matin ils sont arrivés, il n'y avait plus de corps. Il y avait juste les linges bien pliés par quelqu'un qui était sorti de la mort, sorti du tombeau. Quelle nouvelle extraordinaire! Et on aimerait que ce soit sur toutes les télévisions, les radios du monde. Aujourd'hui, nous avons une nouvelle extraordinaire à vous annoncer. Ce n'est pas une catastrophe pour une fois. Ce n'est pas un massacre pour une fois. C'est la vie. La résurrection de Christ est un fait unique dans l'histoire, évidemment. Aucun homme n'a jamais ressuscité. D'ailleurs, c'est ce qu'on entend souvent quand on parle de la résurrection. Ça n'existe pas, la résurrection. Personne ne ressuscite. C'est une légende chrétienne. C'est l'Église qui a inventé ça pour faire de Jésus un Dieu. Vous avez sans doute entendu ou peut-être même pensé tout ça. Aucun homme n'a ressuscité. Si, il y a Jésus qui est ressuscité, justement, qui est là, qui s'est montré à des dizaines de témoins, des centaines même. Il y a ceux qui l'ont vu ressusciter, qui l'ont vu vivant et qui ont raconté. Et même Dieu a laissé dans la nature le printemps. Le printemps, c'est une résurrection. Pendant l'hiver, vous avez toutes ces plantes qui sont mortes, qui ont disparu, qui sont éteintes, et puis au printemps, elles repoussent comme si elles renaissaient miraculeusement. C'est un miracle chaque printemps, la nature. Et Dieu a fait ce miracle dans une personne, Jésus-Christ en particulier. Alors bien sûr, il y avait, on nous parle aussi des mythes égyptiens et grecs ou babyloniens qui parlaient d'un Dieu qui est mort et qui ressuscite, mais ça n'a rien à voir avec la résurrection de Jésus-Christ, ce sont clairement des mythes. Les gens qui suivaient ces mythes ne croyaient pas à la réalité de la chose, ils croyaient au symbole. C'était souvent un symbole de fertilité, justement, et de renaissance des plantations et des cultures. Mais la résurrection de Christ, pour les apôtres, c'était un fait réel. Ils l'avaient vu, ils l'avaient touché. Rappelez-vous Thomas qui a dit « Moi, je n'y crois que si je peux toucher. » Et il a mis son doigt dans les mains de Jésus, dans les marques, dans le côté, et il a dit « Mon Seigneur et mon Dieu. » Il y avait eu d'autres leaders juifs qui étaient venus en disant « Je suis le Messie, je vais vous délivrer. » Et tous étaient morts. Il y en a eu même après Jésus, et ils sont morts, et ils sont restés dans leur tombe. Il n'y en a qu'un seul qui est sorti du tombeau, c'est le Seigneur Jésus. Il n'y a aucun leader de fondateur de religion qui soit ressuscité des morts. Vous pouvez aller voir le tombeau de Mahomet. Vous pouvez aller voir, même il y a la tombe de Bouddha. Jésus, il n'y a pas de tombe, il n'y a pas de cercueil, il n'est plus là. Son corps a disparu. La résurrection de Christ est la plus grande victoire jamais acquise pour l'humanité. C'est 1 Corinthiens 15 dans la Bible qui dit « Ô mort, où est ta victoire? Où est ton aiguillon ?» La mort avait son aiguillon, qui était le péché qui nous faisait mourir. Tous, nous devons mourir. Et c'est ça qui est fou, quelque part. C'est qu'il y a des gens assez bons dans leur vie, assez gentils, et puis il y a des criminels, mais tous finissent pareil. C'est Salomon, dans son livre « L'Ecclésiaste hein, » ou « Le Prédicateur », qui décrit justement cet état de fait un peu absurde. Il dit « Mais quoi qu'on fasse dans sa vie, qu'on ait fait des grandes réalisations, qu'on soit un grand homme ou un petit homme, on va tous passer par la mort. » Et dans son livre, il se désespère. Hein. Il dit « C'est pas juste. S'il n'y a pas de vie après la mort, effectivement, ce n'est pas juste. Mais il y a une vie après la mort. Et il y a un jugement même après la mort. Mais la mort a été vaincue. Aujourd'hui, on essaye de vaincre la mort d'une autre façon, en vainquant les maladies, en faisant avancer la médecine. Et il y a des prouesses aujourd'hui extraordinaires. L'âge, hein, on peut atteindre des âges plus que canoniques. Pas toujours en bonne santé, il faut reconnaître. Mais on peut repousser les limites de la mort. Et on essaye, on se bat, les médecins font des recherches extraordinaires, il y a des millions qui sont mis. Mais la mort, personne n'a jamais réussi à triompher d'elle, sauf Dieu, sauf Jésus-Christ. La mort est vraiment notre pire ennemi et on l'oublie, on essaie de la cacher. On dit « Oh, le problème, c'est le chômage ». Oh, le problème, c'est la guerre avec les terroristes islamistes. Ce sont des graves problèmes, tout ça. Mais le vrai, 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 vrai grand problème de notre vie, c'est la mort. Parce qu'on va y passer. Parce qu'elle arrive inéluctablement. On ne peut pas la faire reculer. Elle arrive. Et est-ce qu'on est prêt? Si Jésus est ressuscité, c'est pour qu'on soit prêt. C'est pour qu'on soit sauvé de cette mort. Et si la foi chrétienne, c'était simplement... Soyez bons, soyez gentils, aimez-vous les uns les autres. Ce serait une religion d'échec total parce qu'elle n'aurait pas réponse à la mort. La vraie foi doit répondre à la mort. Est-ce que vous avez la vraie foi? Est-ce que vous avez une foi qui vous a sauvé de la mort? Est-ce que vous pouvez regarder la mort dans les yeux et dire... Tu es vaincu. Non pas moi, je t'ai vaincu, parce que qui sommes-nous pour vaincre la mort? Mais tu es vaincu parce que Jésus est ressuscité et je crois en lui. Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, nous ressuscitera, nous qui croyons. Et nous paraîtrons en sa présence, ensemble, dans la vie éternelle. La résurrection de Christ est une révolution et elle a surpris même les disciples. On pourrait imaginer des images un peu sulpiciennes, des apôtres qui voient Jésus ressuscité, qui disent « Ah, voilà, ça y est, ce que nous attendions est arrivé », mais pas du tout. Les apôtres sont complètement décontenancés. Pour eux, c'était terminé. Jésus était mort, crucifié, voilà, ils se sont dit « Encore un échec, c'est encore terminé, on avait cru qu'il nous délivrerait ». Et ils étaient tous à se morfondre, à se terrer, cachés de peur d'être arrêtés eux aussi. Rappelez-vous, dans l'évangile de Luc, les pèlerins d'Emmaüs, comme on les appelle, hein, ce couple qui marche, et Jésus les rejoint, et ils ne le reconnaissent pas. Et Jésus leur dit, mais vous avez l'air triste, qu'est-ce qui se passe? Ils disent, oh, on pensait qu'on avait trouvé le Messie. Mais ils l'ont arrêté, ils l'ont crucifié. Et Jésus continue son chemin, et puis à un moment, il partage le pain avec eux, et puis il ouvre la parole de Dieu, et il leur montre que c'est de lui dont il est question dans toute la Torah, dans toute la Bible. Et là, leurs yeux s'ouvrent, ils le reconnaissent. Ils disent « Seigneur !» Et là, il disparaît. Il est venu se montrer à eux pour leur dire « Ne désespérez pas, ne soyez pas surpris. » Mais ils ont tous été surpris. Mais finalement, quand ils ont compris, quand ils ont vu et qu'ils ont cru, alors leur vie a été changée. Les disciples qui étaient plutôt faibles, qui se battaient entre eux, qui se querellaient, qui se chamaillaient entre eux, qui étaient à celui qui serait le premier dans le royaume, qui parfois disaient des bêtises, qui souvent manquaient de foi, qui ne comprenaient pas beaucoup de ce que Jésus racontait. Ces disciples sont devenus des missionnaires extraordinaires. Pierre le premier, le jour de la Pentecôte, à peu près 7 semaines après la résurrection de Christ, Pierre se lève. Devant tout Jérusalem, il y a des milliers de Juifs réunis pour la fête de Shavuot, et il dit, ce Jésus que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité. Et il y a des langues de feu qui sont sur leur tête, il y a un vent impétueux dans la ville, il y a cette joie qui émane d'eux, il y a cette force spirituelle et en même temps cet amour qu'on voit dans le livre des Actes. Tous les chrétiens s'aiment entre eux, tous ceux qui sont disciples de Jésus, et au point qu'il y a des milliers de conversions dans Jérusalem, là où Jésus avait été crucifié et enterré. Ces apôtres sont tous quasiment morts pour leur foi. S'ils avaient menti, s'ils avaient fait un canular en disant « On a perdu, mais on va essayer de s'en sortir, on va voler le corps et on va faire croire qu'il est ressuscité, alors là, on va battre tous les records. » Mais comment des gens faibles, qui ne s'entendaient pas toujours entre eux, qui avaient peur, qui étaient terrés dans les maisons, allaient trouver le courage d'affronter la garde armés jusqu'aux dents, entraînés, qui gardaient le tombeau? Comment ils allaient trouver ce courage? Comment ils allaient ensuite avoir le courage, en plein Jérusalem, de dire « Dieu l'a ressuscité des morts ». S'il avait fait à Tombouctou, là où rien, on avait entendu parler de rien à la rigueur, mais ils l'ont fait dans la ville même où Jésus a été crucifié et ressuscité. S'il y avait des témoins qui les ont vus voler le corps, ou qui ont entendu cette rumeur « Oui, ils ont volé le corps », tout le monde aurait dit « Mais taisez-vous !» Mais au lieu de dire « Taisez-vous !» ceux qui ont entendu Pierre prêcher, ils ont dit « Hommes, frères, que ferons-nous » Et Pierre leur a dit « Repentez-vous et croyez pour le pardon de vos péchés et soyez baptisés. » Et il a baptisé des milliers de personnes, là, en un jour. C'est une merveilleuse nouvelle, la résurrection de Christ, parce que lorsque tout semble perdu avec Dieu, il y a une sortie, une espérance, une vraie espérance. Peut-être que vous êtes dans une situation où vous êtes bloqué, vous êtes dans une impasse. Il n'y a rien de pire qu'une impasse. Hein. Vous êtes arrivé au bout de l'impasse et il n'y a pas de sortie. Vous êtes bloqué, vous sentez que vous n'avez plus de force. Vous êtes dans le désespoir, vous dites « il n'y a plus de raison d'espérer ». C'est terminé. J'avais utilisé le peu d'espoir que j'avais jusque-là, et puis là, j'ai été déçu, c'est terminé. Je n'ai plus d'espoir. Si vous êtes dans cette situation, sachez qu'avec Dieu, il y a encore de l'espoir, il y a encore la résurrection. Ce n'est pas terminé. Votre vie n'est pas finie. Il y a beaucoup de gens qui ont des pensées noires, qui pensent à se supprimer parce qu'ils n'ont aucune espérance dans le monde. Mais à cela, j'aimerais dire aussi, espérez parce que Christ est revenu de la mort. S'il est revenu de la mort, il peut vous tirer de là où vous êtes. Mais encore faut-il lui faire confiance. Encore faut-il mettre votre foi en lui. Vous n'allez pas vous en tirer tout seul. Il va falloir que Dieu vienne à votre aide, qu'il vous sorte de là où vous êtes. La résurrection de Christ nous apporte le salut éternel. Je lis dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 10, versets 9 et 10. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit l'Écriture. Quiconque croit en lui ne sera point confus, déçu. Si vous croyez de votre cœur, il ne dit pas si vous croyez du bout des lèvres, hein, si vous croyez du cœur, et si vous confessez de la bouche, c'est-à-dire vous dites « Oui, je le crois, je suis d'accord, amen », alors vous serez sauvés. Une fois pour toutes, hein. Il ne dit pas vous serez en train d'être sauvé, vous serez aidé à être sauvé. Non, vous serez sauvé, point final. Sauvé de quoi? Sauvé de la mort éternelle. De la mort éternelle. Parce que nous avons peur souvent de la mort physique. C'est ça qui nous fait peur. Le jour où on va mourir, on dit après quand je serai mort, je disparais. Mais la mort physique, c'est ça qui me fait peur. Sauf qu'après la mort, on ne disparaît pas, non. L'âme continue de vivre. Le corps, lui, disparaît dans la poussière, mais l'âme est éternelle et elle vit soit près de Dieu au ciel, soit loin de Dieu dans la perdition en enfer. Il n'y a pas 36 chemins, 36 solutions. Et on devrait s'inquiéter plus de la mort éternelle que de la mort physique. Peu importe comment je meurs physiquement, c'est où je vais après qui compte. Est-ce que vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes sauvé? Vous pouvez dire, oui, moi je suis sauvé. Ou est-ce que vous dites, j'essaye de me sauver? Ah, si vous essayez de vous sauver, j'aimerais vous arrêter très vite. Arrêtez d'essayer. On ne peut pas se sauver soi-même. C'est comme essayer de se soulever avec la chaise. C'est totalement impossible. Il n'y a que Dieu qui peut nous sauver. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a envoyé Jésus-Christ pour mourir pour nous et ressusciter pour nous. Et si vous croyez en lui, vous serez sauvés. Vous pourrez dire oui, je confesse de ma bouche, je crois dans mon cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Vous serez sauvés. La résurrection de Christ nous garantit l'immortalité. Nous avons récité tout à l'heure, sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus. Dans l'évangile selon Jean, Jésus a dit à Marie et à Marthe, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. » Et Jésus finit par « Crois-tu cela ?» Qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il est en train de dire que celui qui croit en lui, qui est la vie et la résurrection, est immortel. Ne mourra jamais, ça veut dire qu'il est immortel. Est-ce que ça veut dire qu'on ne mourra jamais physiquement? Ce n'est pas ça qu'il voulait dire là, évidemment. Il voulait dire ne mourra jamais de la mort éternelle. Un chrétien qui est dans la foi au Seigneur Jésus et qui meurt physiquement, en fait, c'est juste son corps qui meurt. Son âme, elle rentre tout de suite dans la présence de Dieu. La mort n'est plus cet arrêt. La mort, c'est juste ce passage. Pour celui qui croit, il ne mourra jamais. Par contre, celui qui ne croit pas, la Bible dit, celui qui n'a pas le Fils, qui ne croit pas au Fils, ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et j'aimerais vous mettre en garde, vous avertir. Ne repoussez pas au lendemain votre salut, le salut de votre âme. Il y a une semaine ou deux, c'était la journée de la procrastination. La procrastination, c'est le terme technique pour désigner le fait de remettre au lendemain, procrastiner. Eh bien, c'est une journée horrible, hein, et surtout pour l'âme éternelle. Et combien procrastinent en disant « on verra plus tard, quand je serai vieux, avant de mourir ». Ah oui, mais qui vous dit que vous serez vieux? Qui vous dit que vous n'allez pas mourir bientôt? Je ne le souhaite évidemment pas, mais on ne sait pas quand ce sera l'heure. C'est maintenant qu'il faut se préparer, c'est aujourd'hui le jour du salut. Jésus est la résurrection et la vie, c'est en lui qu'il faut se confier. La médecine fait des prouesses, mais elle ne vous sauvera pas de la mort éternelle. Il n'y a que Christ qui peut vous sauver de la mort éternelle. Pour terminer ce matin, j'aimerais dire que la résurrection de Christ apporte une nouvelle vie à ceux qui y croient. Dans l'Épître aux Romains, chapitre 6, verset 4, il y a ce passage. Vous pouvez suivre dans votre Bible, mais moi je vais le lire dans une traduction qui s'appelle « Parole vivante » et qui développe un peu. « Par le baptême, nous avons donc été ensevelis avec Jésus afin de partager sa mort. » Romains 6, 4. « Tout ce que nous étions autrefois est à présent mort et enterré. » Et pourquoi cela ? Mais vous savez que le Christ est ressuscité d'entre les morts par la puissance glorieuse du Père. Nous aussi, nous avons reçu une nouvelle vie et nous sommes appelés à mener notre existence sur un plan nouveau. La révolution de la résurrection de Christ, c'est qu'il démarre une nouvelle vie pour ceux qui croient en lui. Il y a une nouvelle vie. On redémarre à zéro. Connaissez ce chant qu'on aime bien chanter, hein, « Et repartir à zéro, tu peux naître de nouveau ». C'est tiré de la Bible aussi, hein. Toutes choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles, et cela vient de Dieu qui nous a réconciliés, la nouvelle vie. Quand on a cru, on est mort et ressuscité avec Christ. On est déjà ressuscité spirituellement. Est-ce que vous vivez une vie de ressuscité? Est-ce que nous vivons dans la résurrection? Est-ce que vous pouvez dire, moi avant j'étais vraiment mort, j'étais séparé de Dieu, j'avais une vie de mort, mais maintenant le Seigneur m'a donné la vie. Et je sais pourquoi je vis et j'ai la vie éternelle qui ne s'arrêtera jamais. Est-ce que votre vie a été changée par la puissance du Saint-Esprit? Quand le Saint-Esprit est venu à la Pentecôte, hein, donc 49 jours, 50 jours après la résurrection de Christ, il a transformé la vie de ses disciples. Pas juste leur existence extérieure, il a transformé leur cœur. Est-ce qu'il y a ce matin parmi nous des personnes qui ont une nouvelle vie, une vie de ressuscité avec Jésus-Christ? Vous pouvez dire oui, moi, ma vie a été transformée lorsque j'ai cru au Seigneur. Est-ce qu'il y en a parmi nous ici? Oui, il y en a pas mal, hein? Amen, gloire à Dieu. Ces choses ne viennent pas de nous-mêmes, ce n'est pas nous qui nous sommes transformés, encore une fois. C'est l'œuvre de Dieu. C'est la résurrection spirituelle. Jésus nous appelle à une nouvelle vie. Il ne veut pas qu'on soit des pécheurs religieux. Un pécheur religieux, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est toujours dans le péché, qui aime toujours autant le péché, mais qui essaie de s'en cacher avec un vernis religieux et qui essaie de rassurer sa conscience en disant, au moins le jour de la mort, je pourrais dire, regarde Seigneur, j'ai fait quelques prières, je suis allé à l'église ou à la mosquée ou à la synagogue ou au temple, peu importe. Regarde Seigneur, j'ai fait des bonnes œuvres, j'espère que tu vas voir ça devant ton jugement. Ça s'appelle l'hypocrisie religieuse. Jésus a dénoncé continuellement cette hypocrisie. Jésus n'est pas venu installer un vernis religieux dans notre vie, il est venu installer une révolution dans notre âme. Notre âme qui était esclave du péché, du mal, hein, même quand on voulait faire le bien, en général, ce qu'il en sortait, c'était du mal. Le Seigneur est venu nous libérer de cela, de ces chaînes, et nous donner une âme pure, purifiée, qui aime le bien, qui aime ce qui est saint. Quand j'étais en dehors de Dieu et de la foi, j'aimais les choses sales, j'aimais le péché. Et même quand des fois je ne l'aimais pas ce péché, il était plus fort que moi. Et quand je me suis tourné vers le Seigneur, je lui ai demandé pardon pour tous mes péchés, il m'a sauvé, il m'a lavé, et il a mis en moi ce désir de pureté. J'aimais les choses pures, j'aimais prier, alors qu'avant il ne fallait même pas parler de prier. J'aimais la Bible, alors qu'avant la Bible, j'aimais chanter des chants chrétiens, alors qu'avant j'étais plutôt dans le rock, plutôt noir, hein, et sombre et métal. Mais le Seigneur a changé ma vie, mon âme, ma conscience. C'est ça la résurrection. Et cette résurrection continue tous les jours. On doit être de plus en plus saint si on est croyant, si on est chrétien. Et ça, c'est l'œuvre du Saint-Esprit et de la résurrection. On pense que le premier credo, la première confession de foi des chrétiens se trouve en 1 Corinthiens 15. Et si vous avez votre Bible, on peut le lire et terminer avec cela. 1 Corinthiens 15, verset 3, a été écrit aux environs des années 50, c'est-à-dire 20 ans après la mort et la résurrection de Christ, mais il fait allusion à un credo qui existait bien avant. 1 Corinthiens 15, verset 3, Paul écrit « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'ai aussi reçu, donc il avait reçu lui-même, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. » Voilà ce que les premiers chrétiens disaient et croyaient. Christ est mort, il a été enseveli, il est bien mort, mais il est ressuscité. Ça fait partie de la foi chrétienne. On ne peut pas être chrétien sans croire à la résurrection de Christ. Et il dit, il est apparu à Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Donc la plupart sont encore vivants. Quand il écrivait, il y avait encore des témoins de la résurrection. Et les lecteurs de Corinthiens, de cette épître, pouvaient aller faire une enquête. Dire, mais alors, qui c'est? Qu'est-ce qui... C'est vrai, vous l'avez vu? Mais oui, je l'ai vu. Il y avait encore des témoins vivants. Ensuite, après eux tous, il m'est aussi apparu à moi comme à l'avorton parce que je suis le moindre des apôtres, dit Paul. Oui, il se considérait comme le plus petit parce qu'il avait persécuté les chrétiens. C'était un persécuteur, mais lui aussi, il a vu le Seigneur ressuscité. Jésus qu'il persécutait. Est-ce que vous avez la foi qui sauve? Est-ce que la résurrection est vraie pour vous? Ou est-ce que c'est un mythe, une légende? Ou est-ce que c'est une réalité? Où est-ce que vous en êtes? Il faut se positionner par rapport à la parole de Dieu. On ne peut pas rester neutre. On aimerait bien, parfois, mais on ne peut pas. Parce que c'est la parole de Dieu, ce n'est pas la mienne, c'est celle de Dieu. Et devant Dieu, on ne peut pas se cacher. Il faut dire oui ou non, il faut accepter ou refuser. Il nous laisse le choix. Mais il faut vraiment, je vous le dis, recevoir le Seigneur avant de mourir pour être sauvé. Vous avez entendu l'évangile qui dit que Jésus est mort pour vos péchés et ressuscité. Alors recevez cet évangile, acceptez-le dans votre vie et vous serez ressuscité aussi. Vous aurez cette vie éternelle qui est impérissable, qui ne s'arrête pas, qui va au-delà de la mort physique. Vous aurez cette assurance, pas juste un espoir, mais une assurance d'être sauvé pour l'éternité. Que Dieu vous bénisse et se révèle à nous tous, et qu'aujourd'hui on se réjouisse, qu'on partage la bonne nouvelle, et que toute l'année on partage cette nouvelle que Jésus est vivant, Dieu est vivant. Et en lui, nous avons la vie. Inclinons-nous dans la prière un instant. Est-ce que vous aviez réalisé que la résurrection de Christ était une révolution? Que c'est un fait unique, que c'est quelque chose d'extraordinaire? Et que ça peut changer votre vie, le cours de votre existence et de votre mort aussi. Est-ce que vous avez réalisé cela? Si c'est le cas ce matin, vous pouvez, là où vous êtes, ouvrir votre âme et votre cœur au Seigneur et dire: Seigneur Jésus, je crois que tu es vivant, je crois que tu es ressuscité et que tu me sauves. Je te demande pardon pour tout le mal que j'ai fait, que j'ai pensé, que je projette de faire. Seigneur, veuille me pardonner, me purifier. Sauve mon âme pour l'éternité. Donne-moi la vie éternelle. Je t'en prie. Sachez que le Seigneur entend vos prières. Il est là parmi nous. Et après, si vous avez fait cette prière, la Bible dit qu'il faut confesser de la bouche. Il faut le dire à quelqu'un. Oui, moi, ce matin, j'ai reçu le Seigneur ressuscité. J'ai cru. Vous rappelez les apôtres qui ont vu et qui ont cru. Mais nous, on peut croire sans voir. On peut dire oui, j'ai entendu et j'ai cru. Notre Père, nous inclinons devant toi parce que sans toi, nous n'aurions pas de vie. Sans toi, nous serions perdus. Sans force, nous serions encore esclaves du péché, nous serions encore dans les ténèbres. Mais tu as bien voulu te révéler à nous, nous envoyer ton Fils Jésus-Christ, qui est mort pour nous et ressuscité pour nous. Loué sois-tu pour cette victoire, ce fait extraordinaire, cette révolution. Seigneur, nous prions pour tous ceux qui nous entourent, qui ne le connaissent pas. Aide-nous à le partager, le proclamer. Et aujourd'hui, nous voulons encore répéter Alléluia, Seigneur, loué soit Dieu. Hosanna, règne, sauve-nous, Seigneur. Nous voulons répéter ces choses parce que tu le mérites et tu es un Dieu de gloire. Amen.